La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Camille Ferré, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son ce soir, Manuel Couturier, réalisation Daniel Finot. Et ce soir, Anaël Pigeat et Florian Guettet se font face à notre affiche Jardin au Grand Palais. 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe, la collection Bargel à l'Institut du Monde Arabe. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition Nicolas Dauban, Les mains sales à la galerie Florent Maubert et Inland, la scène norvégienne contemporaine au CCOD de Tours. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour parler du refus de la France de restituer au Bénin les trésors nationaux dont ce pays avait pourtant demandé la restitution. Donc bien sûr, des cadeaux à gagner encore grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film Wrong Elements de Jonathan Little qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et en attendant un printemps météorologique qui se fait désirer, nous profitons de la nouvelle grande exposition thématique du Grand Palais pour aller respirer l'air des jardins, de toutes sortes de jardins, initiés par deux hommes que je tiens en grande estime, le commissaire de l'exposition et directeur du musée Picasso, Laurent Lebon, et puis le paysagiste et écrivain Gilles Clément, jardin au pluriel donc, est né sous de bons auspices. L'attente était grande, enfin en tout cas pour moi. L'affiche de jardin, quand même, n'omet pas de citer le nom de quelques-uns des artistes qu'on y trouve. Dürer, Watteau, Monet, Bonnard, Picasso, Fragonard, Matisse, Kubrick. Trois points de suspension. Pour cette exposition, nous entrons à la suite de Florian Guettet dans le Grand Palais.
Oui, le pari est plutôt réussi pour cette grande exposition. On se balade vraiment dans l'exposition comme on se baladerait dans un parc. Il y a cette forme de végétation luxuriante, prolifique, qui est impossible à embrasser d'un seul regard. Et on se balade là-dedans dans une circulation assez libre, avec ses surprises, avec ses évidences aussi. Et puis le tout est vraiment porté par un accrochage très soigné, très lumineux quand il faut, astucieux quand il faut. L'exposition en elle-même est vraiment généreuse. On a vraiment les photos, les tableaux, les sculptures qu'on attendait sur un sujet tel que celui-là, mais aussi des installations, des extraits de films, des broderies, des bijoux, des parages de bijoux, des outils de jardinerie. Donc vraiment une forme presque d'exhaustivité. Le parcours est organisé non pas de manière thématique, mais plutôt comme une sorte de topologie imaginaire des sites jardiniers. Donc on se balade du belvédère à l'allée, à la promenade, et tout ça pardon, me semble dérouler finalement un triple fil autour de ce parcours. Vraiment une première étape qui va confondre l'art de la nature, ce naturalisme scientifique avec l'esthétique naturaliste. Donc là on a bien sûr des planches naturalistes, des dessins, des cyanotypes de Klaus Bolsfield et d'Anna Atkins qui sont tout à fait remarquables, qui sont mis en parallèle avec des photographies de Man Ray, d'Imago Cunningham. On a de l'herbier d'Hermann de Vries, superbe, et beaucoup de pièces qui tendent à montrer une forme de classification de la nature, Je pense à ces collections de terres qui sont ramassées le long de la Loire de Koichi-Kurita, les classifications chromatiques avec les types de bois, les types etc. Qui sont présentés comme des palettes chromatiques, des palettes de peintres ou des codes Pantone. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a ensuite un deuxième fil qui est plus axé sur l'art des jardins à proprement dit, donc vraiment sur le paysagisme comme étant un des arts, en se rappelant que ça faisait partie dans la classification des beaux-arts de Kant des arts principaux, à côté évidemment de la sculpture ou de la peinture. Donc là on traverse des grandes allées de châteaux, les jardins à la française, les jardins à l'anglaise, qu'on attendait, mais enfin ça fait quand même plaisir de se retrouver plongé au milieu de cet univers. Et puis enfin, une réflexion plus contemporaine, on va dire plus ancrée autour ou articulé au thème de Gilles Clément, le village planétaire, le tiers paysage, qui nous permet d'avoir une conception ou un regard, de poser un regard plus écologique sur les parcs dans les milieux urbains et notamment cette nature qui va reprendre ses droits sur elle-même.
Voilà, une belle présentation. Annaëlle Pijat.
Ce que je trouve formidable dans cette exposition, c'est les différents registres qu'elle offre, en fait. J'entendais Laurent Lebon en parler comme d'un feel-good show au premier abord, c'est-à-dire une exposition qui fait se sentir bien. Et effectivement, on se sent très bien quand on sort de cette exposition. Je lisais il y a quelques jours une chronique de Michel Guérin, notre confrère dans Le Monde, qui parlait du besoin d'émotion que l'on a en ce moment dans le champ de la culture, disons, parce qu'il ne parlait pas seulement des expositions. Je crois que cette exposition Jardin traduit bien cet état de vibration dans lequel on peut plonger si on s'y laisse porter, quand on se laisse aller au gré de cette promenade dont parlait Florian. Ce que je trouve formidable dans cette exposition aussi, c'est tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle n'est pas. Parce qu'en fait, moi je la vois un peu comme un grand bouquet de fleurs, l'exposition. C'est au sens où ça n'est pas une exposition purement historique. On part de Pompéi, de cette extraordinaire fresque qui est dans la première salle, qui détaille avec une infinie précision toutes sortes de plantes et aussi de formes de représentation. On va jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, on passe par toutes les étapes. Il y a cette grande allée qui dessine des plans de jardin et on voit l'évolution du 17e au 20e siècle, en fait, en passant par le jardin du 18e, le jardin anglais et la modernité. Pour autant, c'est pas une exposition historique, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans. Ça n'est pas, il y a une réflexion sur ce que c'est que le jardin aujourd'hui. Pour autant, ça n'est pas un inventaire du jardin dans l'art contemporain. Ce sont des choix très subjectifs et très précis que fait Laurent Lebon, en passant notamment des commandes à certains artistes comme Jean-Michel Le Toniel. Il y a aussi une présence de Bertrand Lavier, de Joanne Crétin. Finalement, cette exposition est une sorte de tension permanente et il n'aurait pas de sens. C'est une sorte d'essai subjectif, en fait. Il y a des manques. Il y a des manques. Non, justement, ça n'aurait pas de sens de dire que ce sont des manques. Il y a des absences. Par exemple, le jardin d'Orient est assez peu présent. Le Japon est assez peu présent. La Perse. Je me disais aussi que les ménageries étaient assez peu présentes. Il y a relativement peu d'animaux dans l'exposition. Il y a peu de statues. C'est évoqué dans le catalogue, par exemple. Mais ça n'a aucune importance parce que Laurent Lebon nous propose une vision, sa vision, un regard. Et dans ce regard, on peut piocher des choses et faire soi-même son chemin. Ce que je trouve très réussi aussi, c'est le récit que dessine l'exposition. Il y a vraiment des moments dramatiques que je trouve extrêmement réussis. Par exemple, les premières salles qui dessinent la Genèse, en fait. Il rassemble tous les éléments qui vont constituer le jardin, la terre dont vous parliez, Florian, à l'instant, les ciels de Constable. On a vraiment l'impression d'un récit biblique. Il y a ce moment, la ligne que vous évoquez rapidement aussi, avec cette ligne d'herbier. On a l'impression d'une sorte de migration des plantes, de la réalité de la plante vers les images, puisqu'on commence par des herbiers, l'herbier de Rousseau, les herbiers de Poilu. Ensuite, il y a cette technique du cylindre qui consiste à imprimer, à faire rentrer la plante dans le papier. Ensuite, on passe à la première photographie de Fox Talbot en 1839 et au cyanotype d'Anna Atkins. On a l'impression, et on aboutit ensuite à des images contemporaines, on a l'impression comme ça d'une sorte de vision de l'évolution aussi que je trouve tout à fait spectaculaire. Il y a cette grande promenade que j'évoquais avec les plans de jardin vus du ciel. Il y a ces moments de respiration contemporaine qui font vraiment effet de respiration. Il y a une très belle salle Bruxelles avec un des derniers papiers collés de Matisse qui dialogue avec une photographie de Thomas de Mende et une peinture de Franz Gertsch qui est extrêmement paisible, extrêmement qui fonctionne comme une sorte de petit pavillon comme ça à part. De même pour la salle Tillmans qui est une sorte de respiration aussi plutôt qui a trait au jardin dans la ville. Il y a ces promenades dans les bosquets. Qui sont reconstitués un peu par la scénographie, qui reprend d'ailleurs la scénographie que Laurent Lemont avait fait dans Chef d'œuvre à Metz, où la grotte d'Hubert Robert, par exemple, est mise en scène en quelque sorte par une mise à distance de la Cimes devant le tableau qui l'a fait apparaître, qui fait apparaître le tableau progressivement un peu comme une partie de cache-cache. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette exposition, et ça c'est une des caractéristiques des commissariats de Laurent Lebon, je crois. Cette désorientation, il accroche des tableaux des peintures de Parc Florentin qui sont censées être dans des architectures très hautes, il les accroche très bas, si bien qu'on est complètement désorienté à voir ces perspectives comme on ne devrait pas les voir, ce qui est assez amusant. Il y a ce moment où on est vraiment immergé dans des tableaux plus en all-over de plantes presque, le tableau de Coloman Moser à la fin, les orchidées de Caillebotte, le parc de Paul Klee qui est un tableau à la fois figuratif et abstrait qui frise l'abstraction. Et puis, dernier moment dramatique, c'est la fin qui termine sur le jardin mélancolique et ce tableau extraordinaire de Vuillard qui date de 39, qui est un tableau inachevé. Voilà. Et l'exposition se conclut par cette œuvre extraordinaire de Wolfgang Leib qui consiste en deux petits tas, deux petites pyramides ou petits cônes de pollen, image du temps par excellence, le temps nécessaire à ramasser ce pollen et à faire cette installation. C'est vraiment un récit auquel il nous invite. Je ne résiste pas à relever quelques petits moments d'humour que j'ai vu, la présence de la nanogenèse, ces trois petits plâtres qui sont dans un recoin, il faut bien les regarder pour les apercevoir, référence à la première exposition que Laurent Lemont a fait sur les nains de jardin en 2001. La collection d'arrosoirs qui est quand même assez étonnante et d'outils de jardin qui est mise en parallèle du film L'arroseur arrosé que j'ai trouvé très drôle aussi. Et puis il y a la dame de Courance qui nous invite, qui est un tableau qui nous invite à la promenade comme ça dans les allées de Courance notamment, du parc de Courance notamment. Et puis il y a des touches d'humour qui sont comme ça un peu sérieuses aussi parfois. Il y a notamment des dessins de Beatrix Potter, dessinatrice pour enfants, qui en fait sont tout à fait intéressants. J'avoue que ça faisait quelques années que j'avais pas regardé les dessins de Beatrix Potter et je n'avais pas vu que le jardin dans les dessins de Beatrix Potter est vraiment le personnage principal et que tous les dessins sont faits du point de vue de Jeanne au lapin et qu'on voit seulement les pieds et les mains de Monsieur MacGregor d'une manière un peu étonnante et on retrouve là une espièglerie qui n'est pas dénuée de profondeur. En fait.
Oui, mais ça c'est tout Laurent Lebon, vous l'avez dit. Citons quand même Laurence Fontaine qui a assuré la scénographie, parce que sur un sujet pareil, il y avait quand même beaucoup de choses qui auraient pu être très malvenues. Et je trouve qu'au contraire, la scénographie, vraiment, vous l'avez dit, hein, l'un et l'autre, très, très riche, astucieuse, ludique, elle aussi. Donc c'est vraiment une promenade, les allées, les bosquets. Enfin, on a tout ce qu'il faut, beaucoup de surprises. Pas oublier aussi que, alors, il y a l'exposition des nains de jardin, mais il y a pas oublier le travail qui avait été fait au Centre d'art contemporain de Vassivière en Limousin, d'abord par Dominique Marchais et ensuite par Guy Tortosa, hein, qui est évidemment une des références dans l'exposition et dans le catalogue très monumental et beau de cette exposition. Voilà, cette exposition, même si Laurent Lebon y pense et en avait l'envie depuis très longtemps, elle s'origine aussi dans les travaux de ses camarades, qu'il ne manque pas d'ailleurs de citer et de saluer, et que ce soit Dominique Marchais, Guy Tortosa et Laurent Lebon, et je trouve qu'ils sont des gens à la fois extrêmement brillants et qui ont aussi ce regard un peu décalé sur l'art, qu'il soit moderne ou contemporain. Et ce sont des gens qui m'ont toujours fait du bien par leurs travaux. Et je trouve que c'est encore une fois le cas avec Jardin. Florian Guettet.
Oui, alors moi, ce que je tiens à dire vraiment sur cette expo, c'est que ne pas se laisser avoir finalement par l'affiche qui est, qui est très réussie, très attendue, voilà, assez conventionnelle, mais qui présente ou qui met en avant surtout des grands noms, ouais. Matisse, Cézanne, Fragonard, Klimt, entre autres, mais on pourrait parler du Buffet, Bruegel, Delacroix. Mais finalement, il y a aussi une grande présence des contemporains. Je pense à Pennon, qui était assez attendu, mais les Iris de Patrick Neuil, que j'ai beaucoup aimé. Des René Graham, des Jeff Wall, des Elwar Skelly, vraiment très épurés.
Gerhard Richter, une toile sublimissime, oui, à la fin fin du parcours. Et puis cette rotonde, Wolfgang Tillmans, qu'a évoqué tout à l'heure Annaëlle, vous pouvez en parler peut-être, Florian,
oui,
plus précisément.
Moi, c'est un de mes coups de cœur, hein, vraiment, ouais. Clairement, sur cette exposition. Ce sont donc des photos en grand et petit format qui mettent en comparaison ou en regard à la fois des portraits d'une jeunesse oisive, un peu laissée à son propre sort, et puis des parcs urbains eux-mêmes désaffectés, comme laissés à l'abandon, comme s'il y avait une sorte de coïncidence ou d'analogie à faire entre ces herbes folles et cette jeunesse elle-même fanée. Donc moi, ça a été vraiment un grand moment. Effectivement, c'est un moment de pause aussi. Vous en parliez, Annaëlle. Il y a comme ça des respirations. Il y a un rythme qui n'est pas du tout le même. Il y a des fois où on est vraiment dans la circulation avancée, puis il y a des moments où on s'arrête et on est vraiment sur cette perception très contemplative. Alors effectivement, c'est un récit sensoriel, à n'en vraiment pas douter. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments pour la réflexion. Et j'ai trouvé que c'était assez... finement pensé, que de ne pas avoir fait de cette thématique des jardins forcément une thématique hors sol, une thématique forcément déliée de l'actualité, etc. Alors qu'il y a une vraie réflexion très actuelle sur ce repositionnement de l'humain face au végétal et face notamment à cette nature domestiquée qu'est le jardin. Je pense évidemment au livre d'Emmanuel Ecoccia, La vie des plantes, qui a une contribution formidable à la métaphysique et à comment réancrer le végétal dans le discours philosophique. Je pense aussi à ce livre qui vient de sortir d'un garde forestier allemand qui reprend finalement les expériences de Baxter sur la communication des plantes. Donc il y a vraiment une sorte de repositionnement comme ça intéressant. Donc moi j'y suis allé aussi avec ces questions-là, en y trouvant parfois des réponses. Par exemple, j'ai trouvé très surprenant que Fragonard m'apprenne que le sublime n'était pas réductible à une tempête inquiétante et qu'on se retrouvait face à ce tableau où les visages sont très peu... sont pas du tout précis, sont un peu comme ça dans une forme de flou, et ils tendent, là, tous les figures humaines tendent à s'effacer véritablement dans cette nature, même si elle est pleine de quiétude, pleine de presque de tendresse, parce qu'il y a un regard très empathique, et ça donne quand même cette impression d'une absorption, voilà, dans le sublime. Et j'ai trouvé ça assez surprenant. Ça m'a presque réconcilié avec Fragonard, même si je suis pas un réfractaire, mais voilà, en tout cas il y a une forme d'intimité là. Alors le regret quand même, c'est que finalement donc ces éléments là que moi j'attendais beaucoup aussi sur le discours de Clément, de Gilles Clément, etc., qu'on retrouve principalement à la fin du parcours, fait qu'il y a de très belles perspectives ouvertes, je trouve, dans la dernière pièce. Annaëlle, vous avez parlé de Wolfgang Leib à juste titre, parce que c'est une superbe pièce. Il y a une photographie qui est mise en regard de Richard Long, aussi, qui m'aurait peiné de ne pas voir dans cette exposition. Et puis il y a aussi la figure du jardin mental chez Odilon Redon. Finalement, on attend la fin du parcours pour voir aussi cette forme de métaphore plus spirituelle. Donc à la fin, je suis un peu resté sur ma faim parce que j'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées d'une manière très dense sur les derniers mètres presque de l'exposition. Et quand je suis parti, je suis resté avec certaines questions en suspens.
S'il y a un moment où moi je suis restée sur ma faim, c'est pas là, c'est au moment d'une accélération un peu étrange entre où on passe de Fragonard à la grande serre de Paxton, au déjeuner de Manet et à Marie-Thérèse Walter de Picasso. Là, je trouve qu'il y a une accélération qui est un peu rapide.
C'est un virage, c'est pour ça.
Mais voilà, pourquoi, un virage pas, très pourquoi serré. Pas après tout. Mais vous parliez de ce jardin réel et finalement indirectement de ces grandes figures du jardin qui ont contribué à l'élaboration de la réflexion à ce sujet. En France, dans les 30 dernières années, l'exposition, je crois, leur est aussi dédiée d'une certaine manière. Et finalement, une des idées qu'avance Laurent Lebon par là, c'est l'idée d'une réalité du jardin, à la fois d'une représentation et d'une réalité du jardin. Et cette réalité, je crois, passe à la fois par ces présences contemporaines de jardiniers, jardinistes, artistes, comme il le dit, mais aussi par une chose dont on n'a pas encore parlé et que je trouve vraiment passionnante, c'est la présence du muséum et d'un autre des commissaires de l'exposition, Marc Janson, qui montre, qui est le responsable, je crois, de l'Herbier National au muséum, entre autres choses, et qui montre tous ces objets, parmi lesquels des choses vraiment extraordinaires, notamment toutes ces représentations en cire qui datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, de fruits exotiques, d'agrumes, de plantes de l'île Maurice, franchement, auquel modèle de cire auquel Tetsumi Kudo n'a pas grand-chose à envier tellement elles sont étranges. Et puis il y a cette chose très bizarre aussi que vraiment dont j'ignorais totalement l'existence, ce sont ces fleurs de verre des frères Blaschka. Alors, c'est des choses qui datent de la fin du 19e siècle, qui sont dans la collection de l'Université de Harvard aux États-Unis et qui ont été commandées à Dresde par Harvard. Ce sont des modèles de fleurs en verre qui sont d'une précision invraisemblable. On ne peut pas soupçonner que c'est du verre quand on les regarde. Je résiste pas non plus à vous dire le nom des deux fleurs qui sont montrées.
Ne résistez pas.
C'est Setaria pumila et Rudbeckia hirta.
Pas mal.
Voilà. C'est aussi un très beau passage de l'exposition où l'on passe insensiblement de la réalité à l'artifice, à la vanité et à la représentation artistique. C'est là aussi une accélération un peu trop forte, un peu trop rapide. Mais en tout cas, ces objets venant du muséum sont vraiment très remarquables. Et je pense que ça ancre tout ce discours dans une réalité qui est très intéressante aussi.
Dernier mot, Florian Guettet.
Oui, dans ce changement effectivement de rythme, il y a aussi un changement d'échelle, hein, du micro au macro. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où on est dans une forme de proximité, parce que par exemple, je pense au cliché de Paul Dobb où on doit vraiment voir la minutie, la délicatesse de ces folles étrangetés. Ça m'a ramené d'ailleurs au fantastique naturel dont parle Roger Caillois, c'est-à-dire aussi le fait que ces formes tellement excentriques nous donnent à penser, stimulent notre imagination, rendent notre désir plus fort. Et puis ensuite on passe dans le macro, avec des formes de jardins très ouverts, effectivement, la présence du ciel, vous l'avez rappelé au tout début, mais enfin, c'est pas forcément le plus évident, mais aussi se dire que les plantes sont plantées dans le ciel, sont plantées dans l'air. Et puis, ne pas oublier la dimension peut-être plus politique ou sociologique aussi du jardin, avec ces démonstrations de force, de puissance des grands tableaux immenses. Pour moi, c'était même un peu trop lourd, hein, très honnêtement, cette salle, où on se retrouve avec... c'est le but, hein, du tableau, mais on est écrasé.
Complètement.
Par ces plans qui deviennent des images au service évidemment de la représentation du pouvoir royal.
Dernier mot, Annaëlle.
Pour finir sur une touche plus légère, encore que, et dans cette idée du macro-micro, il y a une très jolie collection d'objets qui sont des boutons de redingote qui font chacun à peu près 3 cm de diamètre.
Des grandes vues du jardin de Versailles.
Qui sont la présence de Versailles dans l'exposition, ce que j'ai trouvé très joli.
Oui, c'est très drôle. Ça fait encore facile de Laurent Lebon, mais les objets sont incroyablement délicats, beaux, enfin bon. Fait partie des grands bonheurs de cette exposition bien riche, on l'aura compris grâce à vos propos qui l'étaient aussi, jardin au Grand Palais, donc à Paris jusqu'au 24 juillet. Très beau, très intéressant catalogue de l'exposition aussi édité par la Réunion des Musées Nationaux, et puis comme souvent un documentaire coproduit qui sera présenté sur Arte, diffusé sur Arte le 26 mars à 18h, et puis bien sûr disponible en VOD et en DVD. Jardin, paradis des artistes, le film, c'est un film de Stéphane Bergugno et Anne Solène Douguet, pour prolonger ou préparer aussi votre visite au Grand Palais.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Nicolas Dauban, la scène contemporaine norvégienne et la collection Bargel. Mais tout de suite, le petit salon. Bonsoir Charles-Lucille.
Bonsoir Arnaud.
Vous avez donné envie d'aller dans les jardins ou pas?
Oui, tout à fait.
Bon.
Beaucoup.
C'est déjà, une auditrice de gagner, mais qui a une place si particulière. Mais vous êtes là ce soir pour nous dire ou pour nous faire entendre cette phrase, notamment « L'avenir de l'art est en Afrique ».
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est ce que titrait Télérama la semaine dernière en couverture, alors que l'art africain contemporain est à l'honneur en ce printemps à Paris. L'art contemporain est peut-être de retour en Afrique, mais l'art ancien n'y est, lui, toujours pas. Le 13 mars dernier, la France opposait une fin de non-recevoir aux demandes de restitution du Bénin de certains de ses trésors nationaux. Une demande formulée dans une lettre adressée le 26 août 2016 par le ministre des Affaires étrangères béninois Aurélien Agbenonci à son homologue français et qui rappelait notamment, je cite une partie de la lettre produite par le Journal des Arts, qu'en 1892, à la défaite des troupes du royaume de Dang Somé, les armées coloniales françaises, en arrivant à Abomey, ont détruit le palais du roi Béhanzin et emporté de nombreux objets extrêmement précieux qui se trouvent aujourd'hui dans plusieurs collections publiques et privées de la République française, notamment au musée du Quai Branly. Jean-Marc Ayrault a donc, la semaine dernière, signifié une fin de non-recevoir à cette requête, invoquant la convention de l'UNESCO ratifiée en 70, fameuse convention mise en application seulement en 97 par la France et qui interdirait, selon le ministère, une telle restitution. Je cite la réponse. « Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis au principe d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. » Peut-être l'État béninois espérait-il un infléchissement de la politique culturelle française en la matière après la restitution en 2012 de têtes maoris à la Nouvelle-Zélande qui a fait date en la matière. Mais en fait, le statut de ces têtes était différent, considéré comme des restes humains. Pourtant, dans le fond, la question symbolique est la même, celle du statut d'objet volé dans les mêmes conditions de violence exercées par un peuple sur un autre. L'an dernier, Louis-Georges Thin, à la tête du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, avait publié dans Le Monde une tribune appuyant cette demande béninoise, précisément intitulée « La France doit répondre positivement à la demande du Bénin ». Il rappelait que cette demande est une première émanant directement d'un État de l'Afrique subsaharienne et que pour cette raison, elle a une forte valeur symbolique. Dans le vaste contexte de la réparation des crimes liés à l'esclavage et à la colonisation, il rappelait ainsi que selon Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture malienne, 95% du patrimoine culturel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Cette demande fait suite à une action organisée en 2013 au Quai Branly, justement par le CRAN, pour montrer à la presse tous les objets pillés pendant la période de conquête coloniale. Alors Louis-Georges Thin concluait l'année dernière avec beaucoup d'espoir, espoir déçu aujourd'hui au nom de conventions écrites pour protéger le patrimoine et l'amitié entre les peuples. Comment voyez-vous évoluer cette question dans les années qui viennent ?
Vaste question. Anaëlle Pigeat, pour commencer.
Oui, vaste question, mais question qui n'est pas tout à fait nouvelle.
Non.
Malheureusement, peut-on dire. Il est certain que le fait que plus de 90, 95, 97% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique soit hors de l'Afrique est un problème. Ensuite, la question est quand même très compliquée. Alors, il y a un argument qui est souvent avancé, qui est que le continent africain ne serait pas en mesure d'accueillir ces œuvres. C'est un argument qui ne vaut pas très longtemps parce que alors d'abord il y a à Dakar par exemple un musée qui est un musée des civilisations noires construit par des Chinois qui est à ce jour terminé et toujours vide. Et on peut évidemment l'argument qui consiste à dire que les œuvres ont été faites en Afrique et donc peut-être que l'Afrique peut les conserver me semble avoir une certaine valeur. Évidemment, il y a des problèmes dans des musées en Afrique parce que Ebola, l'absence de gardiens, les conditions climatiques, tout ça, d'accord. Mais il faut se souvenir que l'Angleterre n'a pas rendu les marbres d'Elgin au moment où la Grèce a ouvert le musée de l'Acropole. Donc, je ne crois pas que cet argument puisse être avancé très longtemps. Je crois que finalement, cette question se règle au cas par cas. Il est certain que il est impossible de faire des restitutions systématiques comme le demande Louis-Georges Thin. Il y a des cas de restitution. Alors les têtes maoris, vous l'avez évoqué, c'est parce que ce sont des restes humains. Il y avait le cas d'une statuette Mbumba du Gabon qui a été restituée au Quai Branly, mais c'est parce qu'elle avait été volée. Donc c'est une chose tout à fait différente. Je crois que finalement tout ça ne peut que se régler au cas par cas. Finalement, l'histoire des collections est une histoire de déplacement. Le Louvre est plein d'œuvres italiennes, des conquêtes napoléoniennes. Finalement, Louis-Georges Tin a avancé aussi dans sa tribune l'idée que François Hollande a fait un mémorial de l'esclavage. Ça suffit pas. Et une fondation de la mémoire de l'esclavage, ça ne suffit pas, certains. Enfin, c'est peut-être un premier pas. Peut-être que finalement, ça peut passer aussi, le règlement de cette question peut passer par l'accompagnement de la manière dont ces objets, sont présentés dans les musées, par des politiques de prêt. Le Quai Branly a été, accusé à plusieurs reprises d'être de ne pas être un très bon partenaire de prêt. Il y a 30 pièces du Bénin qui ont été prêtées en 2006 à la famille Zinsou, mais à la Fondation Zinsou, mais c'est pas beaucoup, donc peut-être que ça peut aussi contribuer au débat. Je lisais aussi un marchand belge qui proposait de faire carrément une succursale du Quai Branly en Afrique. Ça semble un peu farfelu comme hypothèse, mais au fond, je pense que finalement, la réponse qui n'en est pas une à la question que vous posez, Lucille, est à faire au cas par cas, en fonction de chaque objet, en fonction des degrés d'urgence qui se présentent pour chacun des objets évoqués.
Regarde Florian Guettet sur cette question.
Oui, je partage en grande partie les positions d'Anaël. C'est vrai que ce nœud est inextricable parce qu'il y a presque ce débat, j'allais dire éternel, mais entre le légal et le moral, parce que légalement, effectivement, on a des lois internationales qui ne sont pas ratifiées par le Bénin, mais par la France, donc ça pose aussi la question de la dissymétrie ou du déséquilibre, tandis qu'on a une loi française qui déclare inaliénable tout le patrimoine national, et puis on a un cadre moral, une question morale qui propose que le devoir de réparation face aux crimes liés à la colonisation passe par la restitution et le respect de ce droit inaliénable pour un peuple à jouir de son propre patrimoine, à être au contact de son histoire. Parce que là, ça pose effectivement ce problème-là. Alors ça pose en creux aussi la question de savoir c'est un débat d'actualité, mais quel statut on accorde à la colonisation. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou pas? Je m'explique, parce que dans les cas de crimes contre l'humanité, de l'extermination par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, les restitutions, on parle vraiment de restitution et ça a une importance de faire ces distinctions, les restitutions sont automatiques, facilitées et il n'y a absolument aucun problème, alors que la colonisation n'est pas encore considérée de la même façon. Donc ça pose véritablement un problème à la fois diplomatique, géopolitique, mais aussi d'éthique des pays. Alors le cas du Bénin, effectivement, est un peu particulier, mais pas tant que ça, parce que finalement, on parlait des Maoris. Ce qui a aussi joué dans la balance, c'est que les Maoris ont des descendants. 14% de la population de Nouvelle-Zélande est encore Maori, donc elle a le droit à jouir son patrimoine. Et dans le cas des pièces du Bénin, eh bien, il y a encore des descendants de ce royaume de Dahomey qui a été pillé et annexé par la France en 1892. Donc l'argument ne tient pas. Effectivement, moi je trouve qu'il y a un grand paternalisme, d'une façon générale, une sorte de mise sous tutelle. Effectivement, je ne vois pas en quoi on peut dire aujourd'hui qu'il y a des infrastructures muséales qui sont insuffisantes pour accueillir ces pièces et en même temps leur prêter des pièces, notamment par la Fondation Zinsou, Anaël l'a rappelé. Donc il y a forcément là une sorte d'argument un petit peu fallacieux. Et puis il y a cette forme d'ethnocentrisme aussi que je ne m'étais pas rendu compte, mais dans un argument qui est souvent avancé, qui est de dire mais après tout cette pratique muséale et de conservation du patrimoine, elle est eurocentrée, elle est européenne, et regardez, si vous voulez faire la même chose, c'est que finalement vous persévérez l'héritage de la colonisation, ce que je trouve quand même assez hallucinant, comme si cette volonté de prendre soin de son histoire, de mettre en ordre son histoire et d'organiser la pédagogie autour était réservée à l'Occident. Voilà, ça c'est un argument que je juge complètement irrecevable.
Anaël, vous voulez ajouter ?
Je voulais dire, oui, ce débat est tellement occidentalo-centré, effectivement, que sa complexité touche aussi à la question des musées universels. Il y a cette déclaration de l'importance et de la valeur des musées universels qui date de 2002, et finalement qui affirme un peu l'inverse tout ce dont on est en train de parler.
En l'occurrence, de l'UNESCO.
Exactement, exactement. Et la naissance de tous les musées du Golfe, en tout cas la préparation de tous les musées du Golfe, a commencé par le Louvre à Abu Dhabi, par exemple, soulève une question assez compliqué aussi à cet égard. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on montre ces pièces-là là-bas? Est-ce que c'est une manière pour nous d'affirmer la possession que l'État français aurait de ces pièces ou que le Louvre à Abu Dhabi aurait de ces pièces? Enfin, je on croit que c'est la très grande complexité de ce sujet qui est à mettre en avant.
Florian Guettet.
Ouais, même si je rajouterais qu'il y a quand même aussi une question presque de dignité nationale, avec une forme de refus de considérer que les États colonisateurs sont des États de voleurs. Et ça passe notamment par cette distinction donc que j'ai à peine évoquée, mais entre restitution et retour, puisque restitution est fait pour les œuvres qui sont spoliées, volées dans un cadre hors légal, et puis le retour, c'est quand ça a été acquis de façon, on va dire, plus ou moins légale, en tout cas normale, par l'intermédiaire de don ou de legs, et c'est comme ça, en fait, que se sont constituées les collections nationales, et notamment celle du musée Ké Branly. Mmh. Donc, le premier geste, en fait, qu'ils essayent de mettre en place, c'est de dire, mais c'est pas nous qui avons envoyé nos armées pour aller voler, on a juste récupéré et pris soin de votre patrimoine. Donc, c'est vrai que ça ne pose pas tout à fait la question dans les mêmes termes.
Bon, il faut rendre l'obélisque de Luxor, place de la Concorde, à l'Égypte, pour commencer. On sait dans quelles circonstances ça a été pris. Lucille, comment ?
Non, mais la question, c'est quand même, ça pose aussi la question de, justement, cette fameuse propriété inaliénable. Un État est propriété d'un objet d'art, on pourrait très bien imaginer que ces objets aient un statut totalement apatride et qui circulent en fait en permanence en Afrique et partout ailleurs sous une forme. Alors après, il faudrait qu'il y ait des commissions internationales qui régissent et qui, parce que sinon ce serait un gros bazar. Mais il faudrait trouver une solution pour que ces objets-là n'aient pas de nationalité, n'aient pas de
propriété. Oui,
non, et dernière toute petite chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les effets de tous ces débats sur le marché. Est-ce que finalement ça peut contribuer à une sorte de frilosité accrue ? Est-ce que les possesseurs de ces objets vont les retirer du marché ? Est-ce qu'au contraire il faut compter sur des collectionneurs comme les Insous qui vont acheter des œuvres, par exemple le trône de Béhanzin, pour les partager avec les Béninois ?
À suivre comme nombre de sujets de petits salons en fait. Mais pour l'heure à suivre dans cette dispute inflastique, les recommandations des critiques présents ce soir. Florent Guettet, vous nous emmenez à la galerie Florent Maubert.
Oui, pour découvrir la première exposition personnelle d'un jeune artiste du sud-ouest qui s'appelle Nicolas Dauban. Je le suivais depuis quelques temps, mais je n'avais jamais vu autant de pièces de lui réunies. Il a eu le prix de l'AIA cet automne, il a eu le prix Occitanie là, il y a quelques semaines. Donc pour cette exposition qui s'appelle Les mains sales, on découvre un travail qui mène depuis plusieurs années sur les lieux d'enfermement. Et plus précisément sur l'univers carcéral, avec un focus sur AC Syme, qui est la prison réservée aux condamnés à perpétuité dans les affaires de meurtre, en fait. Donc ce qui est tout à fait passionnant, c'est la façon dont Nicolas Dauban interroge finalement cet isolement-là, qui est à la fois spatial, psychologique, physique, social, comme un temps de vie qui persévère malgré son absence de finalité. C'est-à-dire comme qu'il était coupé d'avenir. Alors comment s'exprime un désir qui est forcément foulé aux pieds ou avorté ? Qu'est-ce que ce temps qui progresse en piétinant ou en tournant en rond et qui est proprement improductif ? Alors les pièces sont assez variées. Moi je suis très impressionné par cette double compétence de Nicolas Dauban à la fois pouvoir proposer des œuvres très plastiques avec une vraie esthétique, une vraie technicité. Je pense à ces dessins qui sont réalisés avec de la maille de fer en poudre projetée soufflé sur des toiles aimantées qui sont d'une finesse absolument incroyable, à côté d'autres pièces qui sont complètement inesthétiques mais non moins intéressantes. Je pense notamment à ces protocoles d'action ou de performance à réaliser avec des denrées alimentaires, des bons de cantine, qui sont d'une part censés conjurer l'ennui, mais aussi redonner une forme de projet, donc de dignité à ces hommes qui n'en ont plus. Et puis on trouve à côté de ça des pièces très fortes. Je pense aux vidéos vectorisées de condamnés, notamment de Guy Georges, à qui on demande de modeler l'objet de son désir. Il modèle une bouteille de gin, ou à ces ces dessins qui reprennent les dernières phrases d'hommes libres, puisque ce sont des grands condamnés, donc la dernière phrase de leur procès avant qu'on les enferme et qu'on les entende plus à jamais. Et je pense également à ces escaliers en béton sucré qui sont un peu des pièces signatures de l'artiste, qui reprennent des techniques de sabotage de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin la clé en céramique aussi brisée, en céramique dentaire, qui est une manière aussi de pouvoir accéder à des quartiers non autorisés dans les prisons. Donc voilà, je suis vraiment très interpellé par cette transposition de la contrainte physique et de l'enfermement mental à l'imaginaire et à l'acte créatif, avec une mise à distance tout à fait salutaire, avec, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas en empathie non plus avec ces prisonniers qui sont des condamnés, ça ne les lave pas de tout soupçon, c'est mince sale. J'aimerais juste pour finir signaler que sa participation à l'exposition Gokeni, poétique du sabotage, en ce moment à Nice, à la Villa Arson, donc commissariat Éric Mangeon, Nathalie Desmet, Marion Zillot, et puis une exposition personnelle qui commence à la station aussi à Nice, qui ouvre ce samedi et qui se tient jusqu'au 3 juin.
Et puis à la galerie Maubert, c'est rue Saint-Gilles à Paris, et c'est jusqu'au 8 avril, cette exposition de Nicolas Dauban. On va à Tours pour le nouveau CCC devenu CCC OD.
Exactement, je vous détourne des rues de Paris et je vous invite à prendre le tram Tours.
Ouais.
Le tram réalisé par Roger Talon et Daniel Buren, c'est une des dernières réalisations de Roger Talon. Et vous descendrez à l'arrêt CCC OD, les portes s'ouvriront et les bandes blanches qui ornent les portes s'aligneront exactement avec un marquage au sol en noir et blanc qu'on reconnaîtra bien sûr de Daniel Buren de manière exactement synchrone. Et là, vous verrez apparaître le nouveau bâtiment de ce centre d'art, qui est un centre d'art conventionné, qui est un véritable tour de force, une chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment remarquable.
C'est un lieu très important, c'est depuis très longtemps.
Depuis 1984, exactement.
Oui,
fondé par Alain-Julien Laferrière et qui connaît aujourd'hui une étape nouvelle. Finalement, tous ces centres d'art comme ça, qui sont aussi le fruit de la décentralisation au début des années 80, connaissent aujourd'hui un certain nombre de questionnements. Comment se renouveler? Comment trouver un chemin nouveau, un chemin renouvelé, quoi. Alors, le CCC OD a donc fait faire un nouveau bâtiment par l'agence portugaise des frères Eres Mateus. C'est un très beau bâtiment en pierre de tercet, en pierre de taille, vraiment. C'est une pierre de taille un peu blanche, crémeuse, assez douce. C'est un bâtiment qui est bien de la région. On est au bord du pont Wilson, au bord de la rivière, enfin non loin de la rivière. Et c'est un bâtiment qui est à la fois très, très imposant, mais très simple, qui a une grande retenue, dont on a vraiment l'impression qu'il est fait pour voir de l'art. C'est-à-dire que
c'est
mieux, mais c'est pas toujours le cas.
Non.
Et là, c'est
on en parlera avec l'Institut du monde arabe.
Absolument. En tout cas, là, si on observe les détails de l'architecture donc de ce nouveau bâtiment, les finitions sont très simples, très humbles. Il n'y a pas de hall d'entrée monumental. Il y a simplement deux escaliers qui partent de part et d'autre. Et puis, il y a trois zones dans le bâtiment. Une grande nef qui est ouverte sur la ville et qui est très généreuse parce qu'on y voit des œuvres gratuitement nuit et jour. C'est pas un détail. Il y a un grand espace blanc au premier étage qui a quelque chose de très enveloppant. L'accompagnement pédagogique des expositions est vraiment pensé à l'intérieur des expositions. Là, il y a une frise chronologique qui est dessinée à main levée, par exemple, sur le mur, qui donne quelque chose d'assez sensible. Et puis, tout autour de cette grande pièce, il y a une coursive qui donne un côté bizarrement Napoléon III, en fait, à la chose. En tout cas, Opéra Garnier, qui permet de renouveler les points de vue et les perspectives, de voir et de... Enfin, surtout de renouveler les perspectives, on va dire, plutôt que de se montrer. Et puis, une dernière zone du bâtiment qui est une zone noire qui sert à faire des expositions de manière plus classique. Au dernier étage, il y a un balcon qui permet de montrer des œuvres vues à voir d'en bas. En tout cas, l'espace est pensé comme tel. Avec ce nouveau bâtiment, il y a un nouveau nom. C'est très... une sorte de nouveau baptême comme ça du lieu. OD, ça veut dire Olivier Debré, CCC OD. Olivier Debré qui est originaire de la région et dont la famille a donné 5 grandes toiles pour l'occasion de ce nouveau bâtiment, qui ont été faites pour l'ancien bâtiment du CCC OD. Mais alors, la chose est pensée de manière assez originale. Il ne s'agit pas du tout d'un musée Olivier Debré, il ne s'agit pas d'un mémorial, c'est vraiment... un don qui est une source de réflexion et de stimulation. L'exemple en est un, la programmation inaugurale de ce nouveau lieu, qui est une sorte de saison norvégienne, et qui a un fil tout à fait intéressant autour de la Norvège, qui part, parce qu'on oublie souvent que la Norvège a beaucoup attiré les peintres à la fin du 19e, a attiré Monet, parce que Peer Gynt était là, parce que... Olivier Debré a été donc faire plusieurs voyages en Norvège. C'est ces tableaux-là que l'on voit. On voit, quand on connaît la lumière de la Norvège, à quel point Debré apparaît comme un peintre figuratif, pas du tout comme un peintre abstrait. L'exposition est suivie par de Debré par une exposition de Père Barclay, qui est un artiste qui a une cinquantaine d'années, qui fait une sorte de grande installation, un miroir d'huile.
Le bain d'huile.
Exactement, qui est très pictural, qui est justement dans cette grande nef. On l'a vu quelques fois, on pourra peut-être en reparler plus en détail. Et la chose se termine par un panorama de la jeune scène norvégienne, qui est aujourd'hui très dynamique, très internationale, et pour le résumer trop vite, dans laquelle les artistes font tout. Des expositions, mais aussi des productions. Enfin, ils produisent eux-mêmes leurs œuvres, ils tiennent des lieux d'art, ils développent des galeries, et finalement, il y a un grand dynamisme qui ressort de tout ça.
On pourrait faire un feuilleton la prochaine fois que vous venez, Anaëlle, où voilà. Vous nous en dites plus sur la scène contemporaine actuelle norvégienne.
Absolument.
On fait
ça avec bonheur.
Bon, ce sera le. Donc, c'était le premier épisode.
C'est le pays le plus heureux d'Europe, d'ailleurs, j'ai entendu ça hier.
Méfiez-vous de ce genre de choses.
Oui.
En tout cas, c'était le premier épisode de Coup de cœur d'Anaëlle Pija pour le CCOD de Tours.
C'est.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Allez, le deuxième grand sujet de cette dispute art plastique ce soir, c'est la collection Bargel, celle constituée par le sultan Al-Kassemi depuis 2002 et dont sont présentées une centaine de pièces, donc d'art moderne et d'art contemporain du monde arabe. Il paraît que la collection compte 1300 pièces aujourd'hui, donc voilà, c'est un échantillon. Tous modes d'expression ici sont représentés dans ces œuvres qui retracent donc une partie de la création arabe depuis la seconde moitié du XXe siècle. Philippe Van Cotteren, qui est directeur artistique du Musée d'art contemporain de Gand en Belgique et qui a été aussi le commissaire du pavillon irakien à la Biennale de Venise et le commissaire de cette exposition. À fond, mais le temps file et on a besoin d'un peu de temps quand même pour évoquer cette exposition qui, à bien des égards, mérite le détour. Anaëlle Pija.
Vous parliez dans une émission récente de la question du contexte dans les expositions. Celle-ci est assurément passionnante, mais manque assurément de contexte. Peut-être j'ai essayé d'en apporter un petit peu pour éclairer cette conversation. Il s'agit donc d'un choix dans la collection de Sultan Soud Al-Kassemi, qui est un cousin de l'émir de Sharjah. Alors, Sharjah, c'est un petit émirat près de Dubaï, dans lequel il y a beaucoup de musées, musées archéologiques, musées des sciences, dont l'émir, c'est un régime autoritaire, mais dont l'émir a une vision de la culture héritée des idées de Nasser tout à fait présente. On y voit, une fois tous les deux ans, une biennale d'art contemporain qui est très pointue, qui est souvent d'un bon niveau, qui est dont l'organisation est assurée par une des filles de l'émir. Finalement, cette collection Bargel, alors vous dites Bargel, je ne sais pas si c'est Bargel ou Bargil, je disais Bargil.
On dit Bargil.
On dit Bargil,
bon,
voilà, Bargil, je ne sais pas.
Bargil, alors.
En tout cas, il y a une sorte d'association, de double mouvement, je dirais, entre cette biennale de Sharjah qui finalement fait venir l'art international dans le petit émirat de Sharjah et cette collection Bargil, cette fondation Bargil, qui vise à définir par les œuvres rassemblées ce que c'est que l'art contemporain arabe. Vaste question, me direz-vous. Sujet impossible. Tentative néanmoins de répondre à ce sujet. Peut-être dire quelques mots aussi avant de continuer sur sur Sultan Soud Al-Kassemi. Sultan, c'est son prénom. Il a grandi à Sharjah. Il a une quarantaine d'années aujourd'hui. Il est venu habiter à Paris, en gros, au moment de ses études, et il raconte dans un texte tout à fait étonnant dans le catalogue que c'est à Paris qu'il a découvert l'existence du monde arabe, en gros, avec ses colocataires. Et son texte est intitulé 13 degrés à l'Est. Il raconte que c'est parce que ses colocataires lui avaient parlé de chaînes de télévision arabes qu'il a été au centre commercial des Quatre Temps pour acheter une antenne parabolique et que le vendeur lui a dit il faudra la mettre 13 degrés à l'Est. Mmh. Je crois que c'est la direction de la Mecque, mais je dis mon ignorance absolue dans... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un point de vue occidental. Il y a un aller-retour entre le point de vue oriental et le point de vue occidental qui est là assez intéressant. Alors, cette fondation pour l'art moderne et contemporain arabe, finalement, c'est une sorte de tentative d'un nouveau panarabisme par une forme d'ouverture qui se présente aussi comme une alternative à des discours bien plus autoritaires. Mmh. Finalement, cette collection qu'il a rassemblée comme ça, alors il est aussi blogueur, il est très actif sur les réseaux sociaux, Sultan Soud Al-Kassemi, mais il est aussi entouré de galeristes qui le conseillent, rassemble des œuvres qui vont en gros du Maroc au Proche-Orient. Quand on regarde sur son site internet, il y a une partie collection privée qui va même jusqu'en Iran, en plus. C'est un ensemble évidemment très large, impossible à circonscrire. Les critères qu'il avance sont plutôt des absences de critères. Il parle d'un art qui n'est pas religieux, qui n'est pas ethnique, qui est finalement presque défini par un point de vue extérieur. Il est intéressant, comme vous le disiez, Arnaud, que le commissaire soit un Belge, Patrick Van Cotteren, même si c'est un Belge qui connaît bien le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Alors, dans ces œuvres, on voit des sujets qui reviennent, notamment la question des migrations, la question du paysage. Il y a aussi des destins personnels très ahurissants qui apparaissent quand on regarde bien les cartels. Mais il y a aussi beaucoup de contradictions qui apparaissent à travers les destins de ces artistes. Je crois que finalement, cette collection, c'est vraiment effectivement un outil, une tentative d'écriture de l'histoire, un outil de recherche. Elle a circulé énormément, elle a été montrée, il y a eu 4 expositions à la Whitechapel Gallery à Londres au cours des 2 dernières années. Il y a une expo à Téhéran, il y a une expo à Amman en Jordanie qui, je crois, est en train d'ouvrir. C'est une sorte de chose en construction. Des tentatives d'écrire cette histoire de l'art, il y en a eu déjà. Le pavillon des Émirats Arabes Unis de la dernière Biennale de Venise, dont, comme par hasard, le commissariat était assumé par la princesse de Sharjah, était déjà une tentative de cet ordre. On peut parler avec des points de vue occidentaux de modernité plurielle, des travaux de Catherine David au Centre Pompidou. Je voyais même que dans la foire de Art Dubaï, là, qui vient de finir ses portes, de fermer ses portes, il y avait une sorte de colloque qui s'appelait The Modern Symposium, qui était aussi une tentative de réflexion sur l'écriture de cette histoire.
Beaucoup d'informations et beaucoup de temps qui file, parce que que voit-on ? Quels ont été les choix ? Et là, c'est Florian Guettet qui va se charger de ce volet. Et dans quelles conditions les voit-on ?
Oui, alors en fait, finalement, la scénographie ou le parcours de l'exposition est un peu à l'image de la contradiction qu'il y a entre le collectionneur et le commissaire. C'est-à-dire que le commissaire a une vraie vision universaliste où il ne veut pas forcément prendre de choix et assumer des positions régionalistes ou ethnologiques, ou etc. Et puis, de l'autre côté, on a vraiment le souhait de ce collectionneur de présenter une communauté de gestes, de styles, de formes parfois, etc. Et finalement, dans cette indécision-là, le choix du commissariat était de ne pas présenter les choses d'une manière thématique ou chronologique, mais de le présenter à l'image de la fondation en deux espaces bien distincts. Le premier espace est une galerie de musée très assez classique, musée, avec un accrochage très académique, et puis la deuxième reproduit ou tente de reproduire dans une disposition, on va dire, plus contemporaine, avec des armatures métalliques dans la pénombre et avec des éclairés au néon, il essaie de reproduire les réserves de la fondation. Donc là, on a évidemment un accrochage beaucoup plus resserré pour le meilleur et surtout pour le pire. Hein, ouais. Souvent, même s'il y a des très belles pièces isolées, il y a quand même des problèmes à les montrer comme ça
sur des touches.
Ouais, tout à fait.
Intellectuellement, ça tient. Concrètement, c'est autre chose pour le visiteur, on va dire ça comme ça.
Exactement, d'autant que je pense aussi à cette pièce Concrete Block de Abdoul Nasser Garem, qui perd complètement en intensité parce qu'elle est censée être voilà une forme de barrière, sauf que là rangée sur une étagère, ça perd absolument toute sa substance. Alors voilà, moi je me suis un peu perdu finalement dans ce parcours-là, puisque il y a pas de sens autorisé, il y a pas de direction, mais du coup il y a pas de position, et c'est un peu moi aussi quand même ce que j'attends d'une exposition, qu'elle assume cette position, ce qui est pas le cas. Alors malgré tout, on nous présente sans chef-d'œuvre. Bon, je reviendrai pas sur l'emploi un petit peu abusif du terme chef-d'œuvre, mais on nous présente l'art moderne contemporain arabe. Ben finalement, c'est vrai que c'est plus que des allers-retours, c'est carrément presque une lecture comparative avec le modernisme européen. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Avec par exemple Ahmed Cherkaoui qui certes a fréquenté l'école de Paris, et donc on nous présente ce beau tableau, les miroirs rouges, comme étant une réponse à clé. Rachid Koraïchi est parisien, faut installer à Paris. Hassan Sharif, on nous présente en regard de Fluxus, etc. Donc on n'arrête pas comme ça de faire des liens à l'Occident, et finalement on n'arrive pas à saisir véritablement cette particularité de l'art arabe ou arabo-musulman. Et puis on nous présente aussi une sorte de position politique, là j'ai trouvé vraiment très très timorée. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais assez déçu de voir ces pièces de Haïf Karaman, qui sont donc une artiste libanaise qui travaille, donc cette artiste en tout cas qui travaille sur les oppressions féminines, et donc on voit souvent présenter des femmes soit avec la bouche cousue, soit avec la langue coupée, soit avec ou articulée comme ça, appareillée comme une sorte de pantin qu'on manipule. Et là, au lieu de nous présenter ces formes-là, bien on va nous présenter un homme, un portrait d'un homme assez classique qui va faire référence à un conte persan. Donc finalement, on va presque neutraliser le potentiel de subvention de subversion de cette œuvre-là. Et Tel Adan, moi j'aime beaucoup ces tapisseries, mais enfin bon, c'est pas comme ça qu'on va critiquer véritablement le système pétrolier. Donc voilà, ce truc, dès qu'il y avait une forme de propos politique, finalement c'était assez faible. Et les pièces qui m'ont vraiment retenu sont des pièces qui sont peut-être en décalage et avec cette identité arabe et avec ce propos politique. Je pense notamment à Ito Barata avec cette très belle série sur les moyens mnémotechniques de sa grand-mère illettrée pour retenir les numéros de téléphone. Et puis des pièces peut-être plus historiques, plus traditionnelles, La femme à la robe rose de Baïa, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a ramené quand même à beaucoup de coups de cœur que je pourrais avoir dans les avant-gardes européennes.
30 secondes, Annaëlle Pigeat. Eh oui, un choix s'impose.
Baïa. Baïa qui rappelle la blouse roumaine aussi dans cette interrogation sur le dialogue avec la modernité. Shafik Aboud qui montre un tableau normand, ce qui est quand même assez drôle. La pointe du Hourdel qui est un magnifique tableau. Mais aussi par exemple Lorna Selim qui est une Anglaise née en 1928 qui montre qui est mariée en fait avec un
là, vous avez dépassé vous savez les 30 secondes.
Oui, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas cette question du dialogue avec la modernité occidentale, je pense que la réponse ne tient pas en une phrase et fort heureusement. Parmi les œuvres contemporaines, celle que j'ai retenue, c'est celle de Charbel Boutros, Joseph Boutros, le soleil est mon seul allié. D'Ashraf Touloub aussi, qui montre un monde sans frontières.
Très bien, vous avez fait une minute, c'est parfait. 100 chefs-d'œuvre, ça c'est le titre, de l'art moderne et contemporain arabe, la collection Bargil, à l'Institut du Monde Arabe, jusqu'au 2 juillet 2017. Il y a un catalogue bilingue français-anglais de l'exposition édité par les éditions SNUK. Comment vous prononcez ? S-N-O-E-K. C'est Florian qui décide. Hein. SNUK, SNUK. On conclut l'émission avec le jeu de la dispute. D'abord un rappel du jeu d'hier au soir, Lucille Como.
Watteau fut très inspiré par la tradition théâtrale italienne. Un de ses tableaux les plus célèbres représente un des personnages de la Commedia dell'arte. Lequel ? Et la réponse est Pierrot.
On fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film Wrong Elements de Jonathan Little qui est sorti ce jour. La question, Lucille ?
Comment s'appelle l'officier SS qui est le héros des Bienveillantes de Jonathan Little ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeur FC, auditeur au singulier, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Anna Segalevitch et Emmanuel Giuliani. À notre affiche, La Flûte Enchantée de Mozart et Da Ponte, dirigée par Christophe Rousset, mise en scène par David Lescaut. C'est à l'Opéra de Dijon. Nous parlerons aussi de Trompe la Mort de Luca Francesconi, dirigée par Susanna Malkli et mise en scène par Guy Cassirs à l'Opéra Garnier. Nous parlerons également du CD New York avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pincher chez Alpha Classics. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants le journal de la rédaction.